philosophe public est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Nous sommes avec Monique, des philosophes publics, Morgane et Marc. Et le thème de cette émission, c'est ce qu'on appelle communément les théories du complot. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Donc les théories du complot semblent un phénomène qui a un regain de vigueur depuis, disons, une quinzaine d'années, depuis l'attentat terroriste du 11 septembre, qui serait prétendument le fait de la CIA, du Mossad ou même de l'administration Bush. Et jusqu'aux tueries de Charlie Hebdo, qui auraient été commanditées par aux frères Kouachi, par les services secrets français. Et il se trouve que j'étais en train de penser à cette émission et j'ai reçu une vidéo en message privé sur Facebook de la part d'une amie italienne. Et cette vidéo montre des manifestations qui ont lieu en ce moment à Rome contre un décret qui vise à rendre obligatoire 12 vaccins sans lesquels l'enfant ne peut pas être admis à la crèche, à l'école, ni dans aucune collectivité. Et il peut y avoir une amende jusqu'à 3000 euros pour les récalcitrants. Alors cette manifestation, elle a été, au dire de mon ami, elle était censurée. C'est-à-dire que les grands médias parlent du décret, mais ne parlent pas de l'opposition au décret. Et donc, selon les manifestants de Rome qu'on voit dans la vidéo, il s'agirait là donc d'une sorte de complot médico-pharmaceutique dans lequel les politiques trouveraient leurs intérêts, oubliant donc l'intérêt général. Parce que ces vaccins, peut-être, seraient nocifs, dangereux. Certains vont jusqu'à dire qu'ils contiendraient du mercure. Mais ça ne s'arrête pas là. Je poursuis ma petite histoire, mon anecdote, qui est peut-être pas si anecdotique que ça. C'est que dans les commentaires Facebook qui montrent la manifestation des mamans en colère, je lis qu'une personne ne parvient pas à ouvrir la pièce jointe à une autre vidéo de manifestation. Et dans les commentaires, il lui est répondu que c'est la faute des reptiliens. Les reptiliens, ah bon? Ben ouais, les reptiliens, le grand mouvement conspirationniste mondial qui est en train de voler la vedette aux Illuminati. Donc des extraterrestres mi-hommes, mi-lézards, venus pour manipuler l'espèce humaine et exercer une domination mondiale. Et donc en cherchant un peu sur Internet, parce que je ne connaissais pas les reptiliens, je vois que George Bush, la reine Elisabeth, Madonna, Barack Obama, Nicolas Sarkozy et d'autres, donc seraient en fait des reptiliens qui se déguisent en humains.
Peut-être que toi aussi.
Pour diriger le monde. Ouais. Alors, bon, donc, qu'est-ce qu'on entend par complot? Parce que, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre cet imaginaire complotiste style reptilien Illuminati et le soupçon de complot attribué à une puissante oligarchie, comme le lobby pharmaceutique, bon, une puissante oligarchie qui tirait les ficelles, dissimulée derrière le dos des hommes politiques, qui serait réduit au statut de marionnette? Mais donc mettre dans le même panier l'hypothèse de complot pour un acte ou un événement précis et le méga complot mondial qui oriente le sens de l'histoire, est-ce que c'est pas en dernière analyse tout ramener à une même mentalité complotiste, donc à une tendance plus ou moins pathologique, une tendance plus ou moins paranoïaque? Et faire ça, est-ce que c'est pas un peu passer à côté d'aspects importants du phénomène conspirationniste? Donc une des questions qu'on pourra se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'adopter un autre point de vue sur le complotisme que celui qui met d'un côté les gens raisonnables en capacité d'atteindre le vrai, et c'est toujours nous bien sûr, hein, le complotiste c'est toujours l'autre, et d'un autre côté donc les esprits bornés qui séjournent obstinément dans l'erreur en fantasmant des complots inexistants. Bref, pour le dire autrement, la question relative aux théories dites du complot, est-ce que c'est uniquement celle de la vérité? Le seul intérêt, est-ce que c'est celui de la connaissance du réel? Est-ce qu'on ne sait pas depuis Nietzsche que l'homme préfère souvent des illusions bénéfiques aux vérités sans intérêt? dans lesquels il n'a pas d'intérêt, je veux dire. Donc, oui, il faut combattre, bien sûr, l'erreur et l'aveuglement, mais il semble également tout aussi important de se demander de quoi le succès contemporain du complotisme est-il le signe. Ou, pour le dire avec Raphaël Jossé, auteur de... En fait, il est auteur de Complosphère, qui est paru en 2015. Donc, il dit, il se demande, qu'est-ce que cette forme de conscience collective émergente nous apprend quant à la mutation des sociétés contemporaines. Mais avant d'en arriver là, on va peut-être tenter de donner quelques contours à cette notion floue et fuyante de ce qui est peut-être mal nommé théorie du complot. Qu'en pensez-vous ?
Oui, bon, bah, c'est une entrée en matière qui pose quand même beaucoup de questions et formidable question. Alors oui, d'abord peut-être sur la différence entre le mythe du complot et puis la théorie du complot aussi. Le complot ou le complotisme, ça procède d'une soif de compréhension totalisante du réel qui permettrait de tout maîtriser, de tout organiser, de tout comprendre à partir d'une seule clé, éventuellement la plus simpliste qui soit. À ce moment-là, on pourrait parler de mythe du complot plutôt que de théorie du complot. La théorie, elle ressort plus d'une connaissance rationnelle, argumentée, susceptible de donner des preuves de ce qu'elle avance, alors que lorsque l'on est du côté du mythe, en effet, on est du côté de la croyance, de l'irrationnel, d'une disposition à faire délirer le réel avec soi. Alors après, la question que tu posais, c'est de quoi procède alors, de quel besoin procède alors ce supposé délire.
Mais pour revenir à une définition, ça voudrait dire que si on remplace théorie du complot par mythe du complot, c'est tout de suite, en même temps qu'une définition, une accusation, en fait. Ben oui, c'est tout de suite une accusation, c'est pas une définition. Peut-être que... Enfin, une définition accusatoire. Peut-être qu'avant, on pourrait essayer de définir déjà le complot. Dans beaucoup d'ouvrages, revient la même définition. Alors, il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne sur la question hein, américaine, mais bon. Donc, cette définition du complot, hein, pas de la théorie du complot qui parle de ceux qui imaginent des complots inexistants. Hein, un vrai complot, disons. Un vrai complot, il y a complot lorsque un petit groupe de gens puissants se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste, affectant particulièrement le cours des événements. Donc, c'est Peter Knight en 2003. Et aussitôt après, il dit que chaque élément de sa définition pose problème, en fait. Donc, c'est vraiment pas évident de définir déjà, ne serait-ce que le complot. Alors, la théorie du complot, ça devient encore plus difficile.
Alors moi, je voulais revenir sur cette question de la définition et du jugement. Alors, peut-être que c'est, si on veut dépasser l'antinomie entre le mythe ou la théorie du complot, on pourrait dire que c'est décrire le complotisme, non pas le complot, en termes d'attitude intellectuelle, en fait, de stratégie herméneutique, de type d'interprétation des événements. Moi, je retiendrai peut-être deux choses pour commencer. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Monique sur la volonté totalisante, hein, ça me paraît très important. Ce qui me semble important dans l'attitude complotiste, c'est l'idée de monocausalité, c'est-à-dire que les événements ont une seule cause. Ce qui revient aussi à refuser l'idée de hasard, puisque bon, l'idée de hasard, disons, en histoire, ou plus globalement en biologie, etc., c'est l'idée qu'en fait, il y a de nombreuses chaînes causales qui se croisent et qui créent un événement, et qui est donc le résultat du croisement de nombreuses chaînes causales. Il me semble que le complotisme réduit ça à une seule chaîne causale, donc il y a l'explication par le complot, et donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attitude intellectuelle. Ensuite, moi, il y a une définition du complotisme que j'aime bien, qui est proposé par Philippe Unman, qui est historien des sciences, qui a, entre autres, plusieurs articles de lui sur Internet notamment, et qui propose une définition qui est en fait que donc comme attitude intellectuelle, le complot serait le recours à l'hypothèse systématique et non nécessaire de complot, alors que d'autres explications sont plus probables. Donc ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Monique, c'est-à-dire en fait c'est comment est-ce qu'on explique les événements, puisque de fait, comme tu l'as dit, les complots ça existe, il y a des complots, et il y a des historiens fort heureusement qui ont mis à jour des complots, l'affaire Dreyfus et beaucoup d'autres. Le problème du complotisme, c'est que on ne cherche pas les preuves du complot, mais systématiquement tous les événements sont interprétés d'après cette grille de lecture.
C'est ce que Nureyev, il distingue le complot, enfin le conspirationnisme, disons, on va dire conspirationnisme, pour ceux qui élaborent des complots, enfin qui imaginent, qui font l'hypothèse de complot, réel ou imaginaire. Donc Taguieff, il distingue le complot, le conspirationnisme inductif et déductif. Inductif, c'est-à-dire qu'on part d'éléments. C'est vrai que bon, on cherche des anomalies, on part d'éléments et on en induit, hein, on part d'éléments concrets et on en induit, on élabore une hypothèse de complot. Par contre, le complot déductif, c'est ce dont tu parles, Marc, c'est-à-dire que a priori, on ne fait pas confiance, on nous trompe, on nous raconte n'importe quoi et la version officielle n'est pas la bonne. Et ensuite, donc, on va chercher tout ce qui confirme cette hypothèse, cette certitude même qu'on avait dès le début, qu'il y a complot. Parce que des vrais complots, des complots réels, il y en a, ça arrive. Donc là, on peut parler plutôt de travail d'induction.
Oui, mais quand on est face à un complot réel, on peut expliquer quelque chose, donc mettre en évidence des chaînes de causalité, faire apparaître, un rapport cause-conséquence, alors qu'il me semble que dans le complotisme, il y a une croyance en une intention toute puissante, magique, capable de mettre en forme les événements, capable d'user de sa toute puissance dans cette mise en forme pour organiser les événements, et de fait, comme le disait Marc, donc une toute puissance qui met fin au hasard, qui mettent fin à la contingence, qui mettent fin à la certitude.
À l'erreur humaine, à l'accident, à la faillibilité humaine, c'est-à-dire qu'on peut avoir une intention ou un homme politique ou quelqu'un a une intention et les résultats ne sont pas forcément ceux qu'il attendait. C'est ce qu'on appelle les effets pervers. Mmh. Non, mais moi, je voudrais revenir. En fait, je trouve ça assez intéressant, avant de dénoncer, d'essayer de comprendre donc, d'où vient ce besoin d'élaborer des récits alternatifs et des versions alternatives. Qu'est-ce qui est insatisfaisant dans la version officielle? Pourquoi ce besoin de s'y opposer? Il y a peut-être aussi une posture de donc le conspirationniste, hein, celui qui invente des versions alternatives. C'est peut-être il adopte ce qu'il pense être une posture dissidente, hein, de quelqu'un d'initié. Voilà, lui, il sait, il est au-dessus de la masse apathique et ignorante. Lui, il a l'esprit critique. Il a compris que on lui faisait croire des choses qui étaient fausses. Donc, de son point de vue, c'est les autres qui sont dans la croyance. Lui, il est dans le vrai.
Mais c'est une manière aussi de reprendre le contrôle, non ? C'est-à-dire dans un monde où on est perdu, où éventuellement les choses échappent, parce que le monde échappe au bout du compte à notre organisation, à notre maîtrise. Donc dans un monde où on a peur du lendemain, on est en proie au désarroi, à l'incertitude, à ce moment-là ça devient un moyen de reprendre le contrôle. Mais à ce moment-là ça s'apparenterait à de la superstition. Ouais. Enfin, comme moyen de reprendre le contrôle, comme révolte contre notre condition, comme moyen, illusoire d'ailleurs, hein, de reprendre le dessus sur une existence qu'on ne maîtrise pas du tout.
Je trouve qu'on touche là quand même à la difficulté que l'on rencontre entre la philosophie et le complotisme, où on va se servir d'une même base qui va être justement cet esprit critique. Et pour avoir discuté parfois avec des complotistes, notamment aux roues de la philosophie, ils avaient l'impression qu'on avait un discours commun, qu'au départ, on attendait la même chose, c'est-à-dire la remise en question. Et de cette remise en question, on en allait forcément arriver au même résultat qui était celle des théories du complot, qui sont le plus régulièrement répandues. Et vraiment, je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est qu'à partir de ce que l'on entend par esprit critique, on n'en arrive pas du tout au même résultat. Pourquoi ? Parce que nous, on va analyser, on va aller rechercher la contradiction, on va se pencher sur l'argument, etc., ce que ne va pas forcément faire le complotiste.
Il y a même une très fine frontière parfois, hein, entre ce qu'on appelle la théorie critique, hein, de la modernité, chez des sociologues mais aussi des philosophes, oui. Et l'image qu'ont d'eux, donc ceux qui élaborent des théories du complot, bon, pas les reptiliens, hein, mais enfin, disons, des oligarques qui tirent les ficelles et des hommes politiques qui ont peu de pouvoir. Mais je crois, enfin, il me semble que le critère très très distinctif, c'est l'intention. Les complotistes attribuent vraiment une volonté et une intention à des acteurs, hein, politiques ou économiques ou autres, ou des groupes, des collectifs, des think tanks, etc. Et alors que peut-être que l'esprit critique philosophique, il songe, enfin, il envisage qu'il y a un processus comme un peu sans sujet, hein, avec des logiques complexes qui s'entrecroisent, ce que Marx disait, donc un peu le hasard, c'est-à-dire que, ben, pour parler du capitalisme post-industriel, hein, du néolibéralisme, c'est... oui, c'est un processus impersonnel, sans sujet. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans l'excès inverse et que personne n'ait aucun pouvoir là-dessus. Mais là, c'est José qui dit ça. Donc, ces hommes de pouvoir, ils sont à la fois marionnettes et marionnettistes. Quoi. C'est un peu interchangeable. Et c'est difficile à penser. Et là, je te rejoins, Monique, c'est tellement difficile à penser qu'effectivement, c'est plus simple d'assigner une intention, une volonté et une espèce de super pouvoir à quelques-uns.
Une toute puissance individuelle à quelques-uns, oui. Il y a peut-être un deuxième trait quand même bien qui différencie bien le complotisme de l'esprit critique philosophique, c'est que le complotisme semble absolument immune à la réfutation ou à la critique. C'est-à-dire qu'il a toujours raison. Il est impossible de rien lui opposer, c'est-à-dire que ce que on lui oppose est immédiatement récupéré comme argument venant valider sa position ou sa posture.
Parce que si on contredit la thèse complotiste, c'est qu'on fait partie de ceux qui complotent, des conjurés.
Alors on peut, on peut faire un petit peu de sociologie aussi sur les types de populations qui sont le plus enclines à avoir des interprétations complotistes du réel, parce qu'effectivement ce que disait Monique est importante sur la différence entre le doute qui va permettre de construire une connaissance commune et le doute en fait qui s'exprime de manière radicale sur toutes les versions dites officielles, donc on va récuser les scientifiques, les physiciens, les historiens, etc. Et où par contre la théorie qu'on défend elle va être complètement hors de doute, hein, donc il y a le principe de réfutabilité, bien évidemment pas du tout de l'ordre du complotisme. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que il y a une forte tendance au complotisme chez les gens qui ont eu l'impression de d'échouer à l'école, ou qui ont eu l'impression de pas avoir de reconnaissance scolaire, parce qu'en fait, derrière le complotisme, il y a deux choses. Et là, il y a eu des études assez précises qui ont été faites. Les gens qui sont complotistes ont aussi tendance à être créationnistes, ont aussi tendance à être climato-sceptiques, ont aussi tendance à être négationnistes aussi sur les événements historiques. Hein, et en fait, ce qui est commun à tout ça, quand même, c'est une forme de haine de la connaissance rationnelle. Une forme de misologie. Alors, qui peut avoir encore une fois des racines sociologiques où le savoir savant m'a exclu de son champ et donc je ne le reconnais plus comme légitime. Mais ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est qu'il y a c'est la distinction qu'on peut faire entre un doute raisonnable et un doute déraisonnable. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est dit par Descartes quand même au début de dans la première méditation métaphysique. Parce que finalement, l'hypothèse de Descartes du mauvais génie sur lequel il y aurait un être tout puissant qui me trompe tout le temps, bon, d'une certaine manière, ça ressemble au complotisme, sauf que chez lui, bien sûr, c'est un moment heuristique, un moment du raisonnement qui est fait pour être dépassé. Mais Descartes, dans la première méditation, il dit quelque chose d'intéressant. Il y a deux manières de douter. Il y a le doute méthodologique qui fait qu'on veut avoir une vérité absolue. Et dans ce cas-là, la moindre raison de douter nous fera abandonner une hypothèse comme si elle était fausse. Mais ça, c'est lors de la recherche de la vérité absolue. Et par contre, dans la vie quotidienne, nous sommes obligés de faire confiance à des probabilités. Et donc, je pense qu'il est probable que la Terre est ronde et pas plate, même si personnellement je n'en ai pas fait l'expérience, parce qu'il y a tout un tas de faits, etc. Donc la connaissance scientifique repose forcément sur la confiance qu'on fait en des experts. Or, le doute systématique sur l'expertise, il est intéressant parce qu'il est intenable, en fait. Parce que, bien évidemment, le complotiste ira quand même se faire soigner chez un médecin qui a été formé par le système. S'il doit prendre un avocat, il prendra un avocat qui a fait des études. Enfin, bon, après, il peut y avoir des médecines alternatives, etc. Mais globalement, on se rend compte que mettre en doute globalement ce qui serait le système et un savoir construit par les experts, donc il y aurait une méfiance systématique pour tout ce qui est scientifique, en fait. Hein. Le complotiste pense que les historiens du CNRS nous mentent, pense que les physiciens du CNRS nous mentent, etc. Donc en fait, il est pratiquement intenable. De fait, il est voilà.
Mais c'est effectivement un autre fonctionnement mental, mais qu'ils peuvent complètement assumer. C'est-à-dire que si on essaye hein, de voir les choses positivement, c'est qu'il y a parfois création de récits. Alors c'est vrai qu'on peut faire la différence entre ceux qui forgent l'hypothèse du complot, hein, ceux qui l'imaginent, et puis ceux qui après y adhèrent. Mais il y a une espèce de narration, hein, d'envie de faire un récit. Et si on peut aussi voir cette recrudescence donc de ces récits aussi fantaisistes et farfelus soient-ils, si on pense à ce que Lyotard appelait la fin des grands récits, hein, des grands récits que ce soit du marxisme ou pour certains le marxisme serait à remplacer lui-même et à séculariser les grands récits religieux. Donc, avec la disparition des grands récits religieux ou politiques, il y a une sorte de désarroi, mais le besoin de récits et d'imaginaire et de magie est toujours là. Et alors, il se déplace sur ce genre de fantaisie. Parce que, par exemple, moi, je vois parfois avec mes élèves, certains y croient sans y croire, parce que c'est aussi à mettre en continuité avec un monde des jeux vidéo, de la fiction, des séries télé, X-Files, et j'en passe. Donc, Bon, on en parlera peut-être après, mais je veux dire, il me semble qu'il y a des nouvelles théories du complot qui sont à remettre dans ce contexte de réseaux, Internet, de médias, de voilà.
Je trouve ça très, très juste, hein, sur la prolifération des récits et sur les nouveaux médias qui sont utilisés pour leur diffusion. Je voulais juste revenir sur un point évoqué par Marc, à savoir le rapport à la vérité. Parce que il me semble qu'un des arguments incessamment brandis par les complotistes ou conspirationnistes, c'est qu'on peut pas savoir. Et donc il y a une sorte d'argument, donc il y a l'argument de l'ignorance, qui dit que de toute façon, donc c'est une sorte de sophisme, hein, qui consiste à dire une chose peut exister sans qu'on la connaisse. Hein, donc on ne la connaît pas, donc elle existe. Donc il suffit qu'on ne connaisse pas quelque chose et qu'on ne puisse pas la connaître pour que ça puisse finalement permettre d'attester son existence. Et donc c'est quand même une certaine sorte de rapport au savoir, c'est une certaine sorte de rapport à la connaissance qui nie la possibilité qu'on puisse savoir quelque chose. Mais... Et en même temps, s'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas de science, il y a quelque chose qui s'appelle la certitude. Et donc, à la limite, le complotiste ou celui qui adhère à un grand récit, donc une sorte un récit totalisant, hein, mais qui n'est pas tellement riche, hein, en réalité, hein, par rapport au trésor de culture que peut représenter une religion, par exemple. Hein, le mythe du lézard vert à la Maison Blanche est quand même très très pauvre. Et donc le complotiste à la fois nie la possibilité de la science et en même temps parle au nom d'une conviction intime.
Mais si on revient à une définition classique, traditionnelle de la vérité, alors si on veut revenir sur cette question de vérité, la vérité c'est quand même dans la définition traditionnelle l'adéquation au réel. Et voilà, donc je terminerai là-dessus, parce que finalement, est vrai ce qui correspond au réel, mais le réel, le statut du réel, c'est justement ce qui est devenu très problématique avec les réseaux et le virtuel. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là.
Alors peut-être que nous proposerons une autre émission sur les solutions possibles, enfin les remèdes, puisque finalement aujourd'hui on a beaucoup analysé les causes, les fondements, le pourquoi cette vague
le
de
besoin,
complotisme.
Le désir, la demande.
Voilà, exactement. Et nous n'avons que peu évoqué de solutions possibles. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais ça mériterait quand même une émission. Donc il est fort possible que la prochaine émission des philosophes publics tourne autour de la question que faire du complotisme et peut-on tenter de réfuter le complotisme. Voilà, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.